Comme si c'était commencé alors. Alors, j'ai un peu l'intention donc de faire on va dire pendant trois quarts d'heure, peut-être, on va dire jusqu'à la demi, je vais parler justement de l'aspect transition des mathématiques vers la littérature, comment les mathématiques peuvent-elles servir de support à des écrits littéraires, et puis après quoi, nous nous reposerons un petit peu pour terminer par une salve assez rapide, peut-être, comme une partie blitz, de jeux oulipiens, puisque tout ça tourne autour de l'Oulipo, de jeux oulipiens. Alors, je donnerai les règles du jeu, des jeux qui sont presque toujours inventés par l'Oulipo, mais pas toujours. Et puis après, on jouera, je projetterai des devinettes, si vous voulez, des devinettes, à partir de lettres et de mots, essentiellement, parce que à l'Oulipo, c'est ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les éléments du langage, donc les lettres, les phonèmes, les syllabes, les sons, les mots, bien sûr, bon, tout ce qu'on veut après. Voilà. Alors, démarrons tout de suite, puisque je crois que j'ai démarré, en fait. Démarrons, première invention de l'Oulipo, et je l'apparente quand même j'imagine qu'elle a une origine mathématique, bien que Jean Lescure ne soit pas son inventeur, ne soit pas du tout un mathématicien. D'abord, elle s'appelle la méthode S plus 7. Est-ce qu'on la voit ? Oui. La méthode S plus 7. Donc, elle est bien... voilà. Elle est bien... On sent que derrière, il y a quelque chose. Moi, j'appelle ça de la translation. Officiellement, on l'appelle S plus 7. Et l'idée est de partir d'un texte souche... d'un texte souche, si possible, qu'on a dans l'oreille, le début de la Genèse, ou enfin n'importe quel. Bon. Et de remplacer tous les substantifs, d'où le S, ou bien éventuellement tous les mots porteurs de sens, les substantifs, les adjectifs et les verbes, par le septième mot de même catégorie dans un dictionnaire, peu importe le dictionnaire. Voilà. S plus 7, le 7 est un nom intéressant. S plus 1... était beaucoup moins intéressant parce que S plus 1, le nom qui suit un nom donné dans un dictionnaire est souvent de même origine sémantique. Donc il fallait sortir du champ lexical de référence. Et S plus 10 000 ne serait pas forcément passionnant non plus parce que là, bon, on est presque à un mot pour un autre de Jean Tardieu. Bon, voilà. Bon, donc S plus 7, c'est pas mal. Du coup, ça permet aux mots de garder leur première lettre, une ou deux premières lettres communes. Et du coup. Et ben du coup, Raymond Queneau propose la simèse et la fraction, qui est une petite fable. La simèse, ayant chaponné tous les terneurs, se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie. Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou de verra. Elle alla crochet franche chez la fraction sa volcanique, la processionnant lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, folâtrerie d'anamite. Interlocutoire et priodonte. La fraction n'est pas prévisible, c'est là son moléculaire défi. Que feriez-vous au tendon cher, dit-elle à cette énarthrose. N'incupation et joyaux à tout vendeur. Je chaponnais, ne vous déploie. Vous chaponniez, j'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est vraiment d'origine mathématique. Vous voyez, c'est quand même une translation de vecteurs donnés, le module du vecteur, c'est ce fameux 7, plus 7, au sein du dictionnaire. Donc il y a vraiment, on sent quand même que l'esprit scientifique souffle sur cette toute première idée oulipienne. C'est la première création, puisqu'elle date encore de 1960. L'Oulipo étant né le 23 novembre 1960. Voilà. Toute première création. Et alors aussi pour montrer comment l'Oulipo fonctionne en tant que groupe. En fait, dès qu'une idée émerge à l'Oulipo, elle est reprise par les autres qui la développent, qui l'augmentent, la modifient, l'amendent, etc. De sorte que la simèse et la fraction devient à l'Oulipo c'est dans le bagage oulipien de tout nouvel oulipien, si vous voulez. Bon, c'est la tarte à la crème de l'Oulipo, la simèse et la fraction. Et l'idée vient à Hervé Le Tellier d'écrire la fable de la simèse et la fraction comme si c'était une fable écrite par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Et du coup, ça donne ceci. Cette fois-ci, je ne la connais pas par cœur. une cinèse seule du haut de sa corniche s'ennuyait à crever comme un chien dans sa niche. Pour occuper son temps, elle fait des divisions et se trouve soudain devant une fraction. Quel curieux animal, s'étonne la cimaise, contemplant le quotient, 3 divisé par 13. La cimaise n'est pas matheuse, c'est là son moindre défaut. Moi, j'ai pas mon bachot, fait-elle d'une voix boudeuse. Un chiffre sur un autre, que sépare une barre, c'est plus que compliqué, c'est carrément bizarre. Compliqué ? Pas du tout, s'indigne la fraction. Je ne suis, à vrai dire, qu'une représentation. C'est tout simple, voyez, 3 est numérateur et le 13 en dessous est dénominateur. D'ailleurs, sans me vanter, je suis irréductible. Si vous me l'affirmez, je ne dirai pas non. 13 et 3 sont premiers, insiste la fraction. Oui, fait la cimaise, premier, c'est bien possible. La fraction à ces mots se sent encouragée. Elle parle théorie, évoque l'addition et le PPCM et le PGCD. De façon générale, on dira P sur Q. Comment ? Soyez poli. C'est un malentendu, voyons, dit la fraction. C'était une expression pour rester dans l'abstrait. P sur Q me paraît, à moi, assez concret. J'ai beau n'être, c'est vrai, qu'une décoration, j'ai du vocabulaire. Mieux, j'ai de l'instruction. J'entends de ma corniche bien des conversations. Personne au grand jamais n'y parle de fraction. Allez, déguerpissez, misérable invention. La fraction, assez beau, comprend qu'on la renvoie. Elle ouvre un large bec et laisse tomber son 3. La cimaise s'en saisit et dit « Cher diviseur, sachez que tout professeur est ennuyeux pour celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un numérateur, sans doute. » Dépité, la fraction valant 0 sur Q, comprit très en pétard qu'elle ne diviserait plus. Voilà. Hervé Le Tellier. Voilà. Et on a déjà un petit peu l'esprit oulipien qui commence à souffler ce soir. On voit déjà beaucoup la référence. L'Oulipo n'est pas du tout une école. Mais au contraire, l'Oulipo est inventeur de nouvelles formes littéraires, de nouvelles contraintes, de nouveaux procédés, de nouvelles procédures d'écriture, de nouvelles formes fixes poétiques, par exemple. Mais l'Oulipo s'appuie sur ce qu'ont fait les innombrables prédécesseurs en matière de contraintes littéraires, voilà, dans le passé et bien avant la création de l'Oulipo. On les appelle, ceux qui ont inventé des contraintes littéraires, on les appelle les plagiaires par anticipation de l'Oulipo. Voilà. Alors on sent qu'il y a beaucoup d'humour, d'autodérision et de référence toujours au passé, d'hommage au passé. Il ne s'agit surtout pas de faire du passé table rase, bien au contraire à l'Oulipo. Alors, j'entre maintenant un petit peu dans le vif du sujet, mais toujours en restant pour l'instant chronologique. Raymond Queneau avait eu une idée oulipienne. On ne pouvait pas encore dire oulipienne, parce que c'était dans les années 58, l'Oulipo n'était pas né. Donc, il avait eu une idée de contrainte, d'une forme un peu originale. Il avait écrit 3-4 sonnets, puis il avait un peu abandonné. Quand François Le Lyonnais lui propose la création d'un... Alors, ça ne s'appelait pas Oulipo au début, ça s'appelait Séminaire de littérature expérimentale, le Célitex. Donc, quand Queneau lui propose... quand Le Lyonnais lui propose la création du Célitex, Queneau est immédiatement partant. Ce sont deux vrais compères qui se sont connus pendant la guerre pour des raisons de publication. Et ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et Raymond Queneau se dit, tiens, je vais reprendre mon projet des 100 000 milliards de poèmes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment écrire 100 000 milliards de poèmes? Comme le dit Queneau dans sa préface, en comptant une minute pour lire un sonnet et changer les volets de ce livre et tourner les pages, à raison de 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un million de siècles de lecture. Et en lisant toute la journée, 365 jours par an, pour 190 millions d'années, plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autres détails. Comme l'a bien dit l'autre Amont, la poésie doit être faite par tous et non par un. Raymond Queneau. Voilà, ça c'est la préface aux 100 000 milliards de poèmes, qui est un livre qui fait, en tout et pour tout, 10 pages. exactement 10, puisqu'il s'agit de 10 sonnets qui sont superposés. Sonnet, c'est un poème de 14 vers. De 14 vers, ils sont tous les 10 superposés. Mais alors, ils sont assez habilement construits, au moins sur un double plan, le plan du schéma Dream, qui est le même dans tous les 14 poèmes, même schéma Dream. Et puis, là, c'est un petit peu plus difficile, syntaxicalement parlant, ils sont censés pouvoir s'emboîter les uns dans les autres, être compatibles, si vous voulez, être compatibles les uns avec les autres. De sorte qu'on peut prendre n'importe quel premier vers parmi les 10 premiers vers possibles, n'importe quel deuxième vers parmi tous les deuxièmes vers possibles, il y en a 10, n'importe quel troisième vers, etc., jusqu'au dernier. C'est là, bon, c'est Gallimard, hein, ils ont fait, bon, ça... Ah, ça a eu beaucoup de succès, hein, mais c'est pas très, très commode, voilà. Alors, admettons que j'ouvre un petit peu au hasard, voilà, ça s'est fait ouais, au hasard, et on a un nouveau sonnet qui est cohérent, tous les vers feront 12 syllabes, il y aura le même schéma de rime partout, et en principe... Alors, est-ce qu'on, vous avez compris qu'on ne peut pas tous, enfin, qu'il faudrait 100 millions d'années de lecture. Comme il y a des scientifiques, est-ce que vous avez entendu que Queneau s'est trompé? Il y a peu de gens qui l'ont remarqué. Parce que je l'ai dit un peu vite, hein, mais il dit que si on lit 8 heures par jour et 200 jours par an, il faudrait 100 millions d'années de lecture. On en aurait pour 100 millions d'années de lecture. Mais en lisant toute la journée, 365 jours par an, on en aurait pour 190 millions d'années de lecture. C'est assez curieux, il s'est trompé de curieux. Là, c'est vraiment une coquille. Ben, à l'époque, on faisait les calculs à la main, mais enfin quand même, c'est un peu... On a deux fois plus de temps si on y consacre toute sa journée. C'est curieux. Alors, j'en lis un. Un parmi 100 000 milliards, hein, 10 puissance 14. Je ne sais pas si je m'adresse à des scientifiques ou à des... Le premier vers, il y a 10 possibilités. Le deuxième vers, il y en a 10. Donc, pour les deux premiers vers, ça fait 10 fois 10 possibilités. Pour les trois premiers vers, ça en fait 1000. Et pour les 14, ça fait 10 fois 10 fois 10, avec comme ça, 14 fois. Ça fait 1 avec 14 zéros. Et ça fait 100 000 milliards. 100 000 milliards. Il se penche, il voudrait attraper sa valise, que convoitait, c'est sûr, une horde d'escrocs. Il se penche et alors, à sa grande surprise, des narcisses en cueille ou bien on est des veaux. Et pourtant, c'était lui le frère de Feintise qui se plaît à flouer de pauvres provinciaux. D'une étrusque inscription, la pierre était incise que les parents féconds offrent au pur berceau. Devant la boue humaine, on retrousse sa cotte, comme à Chandernagor, le manant sans la crotte. Même s'il prend son sel au Celte, c'est son bien. Frère, je te comprends si parfois tu débloques, tu me stupéfies plus que tous les ventriloques. Le métromane, à force, incarne le devin. Voilà. J'ai l'impression que je l'avais déjà lu une fois, celui-là. Bon. Alors, dans la même idée, toujours le groupe agissant, donc on est dans la mathématique combinatoire, hein, voilà. Donc en hommage à cette très très belle idée combinatoire de Queneau des 100 000 milliards, donc préfacée par Queneau et postfacée par François Le Lyonnais. C'est une assez habile postface sur justement la littérature combinatoire. Frédéric Forté écrit des Bristol, il invente la forme Bristol, il écrit des Bristol, donc c'est un poème qui est écrit sur des Bristol. Les vers sont totalement libres, il y a un vers par Bristol. Un vers par Bristol. Mais le principe est que les vers ont été habilement combinés, de telle sorte que, là encore, on ne peut pas dire que tout a été pensé, parce que faute de temps. Mais enfin, en tout cas, cela, je les ai écrits moi-même. J'ai à peu près vérifié que chaque Bristol est compatible avec chaque Bristol. Voilà. Je l'ai au moins vérifié comme ça. Et là, je fais qu'une très courte illustration. Alors ça, c'est un poème Bristol à propos enfin, c'est une chanson. C'est une chanson qui est chantée dans un spectacle et présentée comme ça. Chaque note étant isolée et faisant partie du tout, cette poésie est un puzzle. La voix fait son chemin, ayant la même forme qui fait partie de la poésie, au-delà du poème, sans queue ni tête. Place au hasard, coïncide chaque soir renouvelé, car ici la fortune fait son métier, et une parole inouïe, la voix fait sa voix. Où l'ordre est désordre, l'ordre en est arbitraire, et seulement à la fin, plaisir des doigts, plaisir des oreilles, c'est la poésie de l'imprévu, totalement imprévu, se combinant gré à gré, plaisir de tous les sens, bienvenue à l'accident miraculeux, peut se juxtaposer sonorité après sonorité, à travers toutes les pièces, elle erre sans jamais trébucher, toutes les pièces auront été dites, chaque pièce du puzzle remplissant le silence, la poésie se construit, louée soit l'imprévisible, à la toute fin seulement, dans l'organisation, lentement elle avance, plaisir des yeux, elle tisse sa toile avec un bonheur identique, s'ajuste indifféremment, un sens nouveau s'établit où le désordre est l'ordre. Voilà, vous voyez, c'est de la poésie combinatoire, donc en hommage à Queneau, mais dans un autre sens, je tiens à souligner l'inventivité et en l'occurrence l'invention de Frédéric Forté, qui est un poète oulipien, uniquement poète, voilà, et qui invente de très très belles formes. Et je crois qu'il y a un beau potentiel dans la forme Bristol, qu'il a appelée Bristol. Alors, les premières années de l'Oulipo sont des années consacrées au tâtonnement. L'Oulipo se cherche un petit peu. Qu'est-ce qui est oulipien? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? François Le Lyonnais, c'est un personnage que j'aime bien. Lui, qui est un peu paresseux, qui est bourré d'idées, mais très paresseux de plumes. Donc lui cherche plutôt des tentatives poétiques à la limite minimales. Plus tard, Georges Perec va procéder à une tentative à la limite extrême, maximale. Donc au début, bon, c'est un groupe très structuré, ils inventent le tollé, tableau des organisations, des éléments du langage, enfin quelque chose comme ça. Et c'est d'un tableau donc à double entrée dans lequel on indique... en ligne les éléments du langage, donc vous voyez lettres, phonèmes, syllabes, etc. C'est un grand tableau, hein, je n'en mets qu'un petit bout, mots, et en colonne on indique des opérations sur ces possibles, sur ces éléments du langage. Donc déplacement, substitution, addition, soustraction, multiplication, évidemment division, contraction, etc. Et un des premiers travaux de l'Oulipo consiste à essayer de remplir intégralement le tollé. Bon, on comprendra par exemple que, regardez, je regarde la première case en haut à gauche, au croisement de lettres et déplacements, on obtient l'anagramme. L'anagramme, une anagramme de crâne, c'est écran ou c'est nacre ou c'est carne. Bon, deux mots sont anagrammes. L'un de l'autre, si ils ont les mêmes lettres dans un ordre différent. Bon, alors il y a des tas de mots un petit peu savants, ben oui, tant mieux. Au croisement de multiplication et de phonèmes, on va obtenir la rime, voilà. Où on obtient l'allitération, croisement de multiplication et de lettres, ça pourrait être plus la lettre, l'allitération étant la saturation d'un texte d'un son consonantique, donc d'une consonne, bon, d'une consonne ou d'un phonème, bon. Voilà. Acrostiche, vous savez, c'est un poème qui se lit au sens habituel, mais dont on peut aussi lire un mot caché en prenant la première lettre de chaque vers, bon, etc. Voilà, bon. Ça, c'est pour montrer que l'Oulipo est très structuré. Alors, ne me demandez pas les il y en a beaucoup que je connais, mais et beaucoup que je ne connais pas. Hein. Et beaucoup que je ne connais pas. On voit bien que déplacement et syllabe donnent lieu au contrepaix, par exemple, au contrepaix. Mais non, je ne connais pas je ne connais pas tous. Non. Alors, je reste dans les opérations, justement, dans les opérations, on a quelque part le palindrome, bien sûr. Là, c'est entre déplacement et syllabe. On a mis le palindrome de syllabe. Alors, il y a des palindromes de lettres. Si vous écrivez la phrase « Engage le jeu, que je le gagne », eh bien, vous pouvez la lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Les accents ne comptent pas, les apostrophes ne comptent pas, les espaces ne comptent pas, mais les lettres sont dans le même ordre si on les lit de gauche à droite ou de droite à gauche. « Engage le jeu, que je le gagne ». Ça, c'est un palindrome de lettres. Mais on peut faire des palindromes de syllabes, des palindromes de mots. Et j'en arrive aux projets qui sont parfois proposés par des villes à l'Oulipo pour le 1% de gros chantiers. Alors, on a fait un gros chantier à Strasbourg pour le tram de Strasbourg. Je crois que ça s'appelle Troll de Tram, le projet. Et plus récemment, Rennes, pour son énorme place Charles de Gaulle, nous a proposé de faire une intervention. Voilà. Une intervention. Alors, on nous a montré le plan de la grande place. C'est pas très excitant, mais il y avait beaucoup de flux. C'est une place piétonne devant les champs libres, pour ceux qui connaissent Rennes. Cette énorme place rectangulaire, qui n'est pas très belle. Et il y avait beaucoup de flux possibles pour les piétons. Les piétons pouvaient venir d'ici ou de là, enfin voilà, de plusieurs issues possibles. Tenez, je vous montre à peu près le schéma. Voilà, donc on nous présente ça. Et alors, très vite, nous avons l'idée de clous fixés dans fichés dans la place, des clous de bronze. Et on s'est dit qu'on allait mettre des mots sur les clous. Et que le piéton allant de nord 1 à nord 2, par exemple, allant de nord 1 à nord 2, pourrait, s'il avait le temps, ou la patience, ou l'envie, pourrait lire tout simplement tous les mots qui sont fixés sur les plombs, sur les clous. Voilà. Et que ça formerait une phrase. Puis on s'est dit que ce serait encore plus intéressant si un autre piéton, ou le même, allant cette fois-ci de nord 2 à nord 1, lisait à son tour tous les mots sur les clous et aurait une autre phrase. Alors, pas tout à fait un palindrome, mais enfin, c'est, si on accole la première et la deuxième, ça fait un vrai palindrome. Voilà, si on les par concaténation. Donc, quand même une forme de palindrome. Après, on s'est dit que mot à mot, c'était un petit peu difficile à faire, surtout sur un projet d'une telle ampleur. Et donc, on a décidé de faire des groupes de mots par clou. On avait la dimension du clou, on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'à deux à trois mots par clou. Donc, sur chaque clou, on met un, deux ou trois mots. Et donc, c'est une illustration, si vous voulez, là, de la symétrie en matière littéraire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, je vais vous en montrer. Alors, là, c'est le plan général, avec les mots, mais qui sont sur ce plan-là illisibles, avec les groupes de mots. Alors voici deux exemples. Celui-ci vient de Michel Grangot. Michel Grangot, une poète de l'Oulipo. Toujours vieillir, vous regardez le miroir, vous êtes ici. Ça, c'est ce que va lire l'un des piétons. Mais un autre, le piéton miroir, lira ici, vous êtes le miroir, regardez-vous vieillir toujours. Mal, hein. C'est pas mal ce qu'elle a fait. Parce que le sens d'un seul coup est tout à fait différent. Celui-ci, j'ai dû écrire celui-ci. Parfois, au jour succède la nuit, mais les rires souvent suivent les larmes, rien ne vaut partir ailleurs. Ailleurs, partir ne vaut rien. Les larmes suivent souvent les rires, mais la nuit succède au jour parfois. Bon, donc voilà une idée oulipienne, une idée oulipienne sur, vraiment fondée sur la notion de symétrie. Donc c'est tout ça pour illustrer, vous voyez, les idées mathématiques, des idées qui proviennent des mathématiques pour déboucher sur des textes littéraires. C'est vraiment de ça que je veux parler ce soir. Alors il y a une très 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 belle idée que l'on doit à Luc Étienne et qui est fondée sur ces petits lutins les mathématiciens matheux de la salle vont évidemment bien connaître. Si l'on compte le nombre de lutins, on en voit sur la figure 3 et 2 et 5 et 9, 7, 10, 12. On en voit 12. Je vais couper horizontalement cette feuille et puis verticalement, je ne sais plus très bien par là, à peu près, pas au milieu, comme ça, juste comme ça. Donc je fais la partie inférieure va rester inchangée. En revanche, sur la partie supérieure, je vais couper ici et je vais intervertir la partie supérieure gauche et la partie supérieure droite. Alors attention, je le fais là en direct. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Il y en avait pourtant 12. Là, voilà, ils sont là. Là, c'est les 12. Hein, vous avez vu comment j'ai coupé. Voilà. Il y en a 13. Alors, je le remontre. Je le remontre d'une autre manière. Voilà, la partie verte, vous voyez, reste inchangée. Ça, c'est une autre version plus lisible. La partie verte reste inchangée et la partie supérieure, dans la partie supérieure, on intervertit les bandes bleues à fond bleu et à fond beige. Voilà. Donc ici, on va avoir 5 personnages. Et ici, on en a 6. Après interversion, on en a 6. De même, là-haut, on a 5 rectangles et en bas, on en a 4. Alors, il est évident que rien ne s'est perdu. Et si on a 4 rectangles, ben ça veut tout simplement dire que les rectangles du bas ont une aire un peu plus grande que celle du haut. Et c'est un peu la même chose qui se passe sur les personnages. Les personnages du bas sont plus petits. Vous voyez, celui-là, il est comme ça. Et là, c'est le même, mais il a un chapeau en plus. Voilà comment on peut faire, soi-disant, apparaître un nouveau personnage. Voilà, parce que cette tête est apparue là où il n'y avait rien, cette tête est apparue, mais elle était là, on la remplace par celle-ci. Alors là, après, il faut regarder ce qu'est devenu la bouche, mais là, finalement, il n'a pas de bouche, enfin, elle est cachée par sa moustache, disons. Donc on peut assez facilement analyser l'apparition d'une bouche, d'un nez, etc. On voit bien que, par exemple, cet élément-là, où est-ce qu'il est là-haut, sous la toque, voilà, ce nez, enfin, non, c'est, pardon, ça, oui, c'est ça, c'est celui-ci, voilà, c'est le nez ici qui devient juste des sourcils et qui permettent de faire apparaître un nouveau nez, enfin, bon, voilà, s'il faut faire apparaître des éléments. C'est ce petit jeu mathématique, si l'on veut, qui donne l'idée à Luc Étienne, Luc Étienne, c'est le spécialiste de la contrepétrie, c'est lui qui a inventé l'album de la comtesse et qui l'a animé jusqu'à sa mort. C'est repris par un autre spécialiste qui s'appelle Joël Martin. Mais là, je parle d'un mathématicien qui s'appelle Claude Berge, spécialiste de théorie des graphes, et très connu dans le milieu mathématique mondial, parce qu'il avait notamment émis des conjectures qui sont restées célèbres. Conjectures de Claude Berge, voilà. Et donc, il reprend la même idée. Alors, vous voyez, nous prenons un sonnet, il est là. On découpe, c'est toujours la zone verte qui va rester invariante, et on intervertit la zone bleue et la zone rose. Donc là, c'est la découpe, elle est verticale et puis horizontale. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que nous partons d'un sonnet, c'est-à-dire 14 alexandrins. 14 alexandrins, ça fait un nombre de syllabes données. Ça fait 14 fois 12 syllabes. Hein. On peut très bien le lire, tandis qu'en, je ne vais peut-être pas tout lire. Tandis qu'en frissonnant, elle égrenait des vers, l'Aztèque imperturbable à la touque imprécise serrait sa souveraine, une blonde aux yeux verts, d'un lien libidineux que la froideur attise. Ce sont quatre alexandrins parfaits, qui riment aussi, mais avec 12 syllabes à chaque fois, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors on fait la découpe magique, hein, donc on coupe selon les traits, on intervertit le rose et le vert, et voici donc voici le nouveau sonnet. Tandis qu'en frissonnant, elle le déblatérait, l'ami présomptueux, plus fou qu'il ne paraît, serrait sa souveraine, une blonde farouche, d'un lien à la fois oppresseur et charmant. Et je lis les trois derniers, le dernier tercet. Si le verbe jaillit que l'incas prosaïse, d'un tel triomphateur ne trouble le diamant, même Xibétothèque tout doucement s'enlise. Voilà. Alors tout irait bien si on ne s'était pas mis à compter d'un seul coup les vers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons 15 alexandrins parfaits, c'est-à-dire 15 fois 12 syllabes. Vous voyez, c'est vraiment Claude Berge a vraiment calqué ça sur le modèle des petits bonshommes. Le premier sonnet faisait 14 fois 12 syllabes, ce deuxième en fait 15 fois 12. Alors, si vous avez des idées, il y a deux idées qui permettent ce subterfuge. Dans celui que vous avez sous les yeux, il y a donc 12 syllabes de plus que dans le précédent. Donc, il faut faire apparaître de manière artificielle des syllabes, alors que les demi-phrases sont les mêmes. Alors l'ami, on peut le retrouver, il était là, jeune ami, et là c'est L apostrophe, oui. Ça revient au même. Les E muets, alors très bien, voyons ici ce E muet. Tandis qu'en frissonnant, elle égrenait des vers, le L est suivi d'une voyelle, il n'est donc pas prononcé. Le LE, là ce E muet que je souligne, ici est suivi d'une voyelle, il n'est donc pas prononcé. Mais quand on intervertit le rose et le bleu, devant le L, il va y avoir le D, là. Le L va être suivi d'une consonne. Donc cette fois-ci, il faudra prononcer LE déblatérait. Donc ce E-là comptait pour zéro syllabe dans le premier, et dans celui-ci, il compte pour un. Une syllabe, on en a gagné une. Et ainsi de suite, on va en gagner 6 ou 7 dans le poème. Deuxième idée. Bravo, ben bravo. Présomptueux. Ça, le poète a de rares degrés de liberté, le poète classique, si vous voulez. Mais vous avez remarqué que parfois, on écrit, Victor Hugo écrit encore E-N-C-O-R. Ben, le poète a le droit d'écrire E-N-C-O-R ou E-N-C-O-R-E. Bon, ça, c'est au choix, donc ça lui donne 2 ou 3 syllabes. Voilà, ça lui fait un degré de liberté. Et de même, pour des mots comme lion, des mots comme présomptueux, justement, eh bien, il a le choix entre le dire de manière contractée, on dit faire la synérèse, contractée, un lion, ou de manière étendue, le lion. Hein, lion. Donc ça fait une syllabe ou 2 syllabes au choix. Au choix, c'est faire la diérèse, si on le dit comme ça, de manière dilatée. La diérèse. Alors il est évident que dans le premier, c'est dans le deuxième qu'il faut faire apparaître des syllabes. Donc dans le premier, il était là. Toutes ces diphtongues, il y en a pas mal. Surtout là, par exemple. Dans l'ouest enfoui, dit-elle à son amant pervers. Dans l'ouest enfoui, dit-elle à son amant pervers. Vous voyez, ouest enfoui. Ouest, j'ai fait la synérèse. Enfoui, j'ai fait la synérèse. Dans le deuxième, dans l'ouest enfoui, dit-elle à son amant. dans l'Ouest. J'ai fait deux fois, cette fois-ci, la DRS, et je gagne comme ça deux nouvelles syllabes. Voilà, au bout du compte. Enfin, c'est quand même très, très habile. Il a dû y passer un peu de temps, Claude Bert. Ouais, très, 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 très malin. Non, mais... Alors, oui, théorie des graphes. Là, on n'était pas vraiment dans la théorie des graphes, mais ce grand spécialiste de la théorie des graphes publie, dans notre petite bibliothèque oulipienne, publie une nouvelle policière qui s'appelle « Qui a tué le duc de Densmore ?» Je résume l'intrigue. Un duc de Densmore, qui habite un château dans une île au large de l'île de l'Irlande, fait venir, au cours des quelques semaines qui précèdent sa mort, allez, je le dis tout de suite, fait venir 8 femmes autour de lui à des périodes différentes, périodes qui se chevauchent parfois. Et il se trouve, bon, l'île est isolée, il n'y a personne d'autre. Mais ça, bon, on finit par découvrir le cadavre du duc de Densmore, assassiné, sauvagement, bien sûr. Et la police qui enquête récupère les agendas de toutes les 8 suspectes, sachant qu'il n'y a qu'elles qui sont allées rendre visite au duc. Donc c'est forcément l'une d'entre elles. Voilà. Et puis l'affaire est classée. L'affaire est classée, il n'y a rien à tirer de ces agendas. L'affaire est classée, et alors c'est un peu comme le service des affaires classées, Roy Vickers, comme ça. On pourrait dire Colombo, si vous voulez, maintenant. C'est-à-dire qu'on reprend une affaire qui était classée sans suite, et puis il y a une nouvelle idée, l'inspecteur a une nouvelle idée. Et là, l'inspecteur, ce n'est pas un inspecteur, c'est un jeune mathématicien, qui dit, ah bon, mais on a le graphe, on a les graphes on a les agendas des dernières visiteuses, et ben on va faire le graphe de leur agenda. Alors voilà, bon, elle s'appelle ABCDFGH, bien sûr, enfin Alice, ce que vous voulez, hein, Bête, etc. Et les 8 femmes. Alors, ça, par exemple, le lien entre A et B veut dire tout simplement que A et B ont été au contact du duc pendant une période commune. Période, ça veut dire au moins un jour commun. Voilà. Elles étaient présentes en même temps que le duc. Mais, par exemple, A et D, il n'y a pas d'arrêt entre A et D. Ça veut dire que A et D sont venus à des périodes totalement disjointes. Bon, on appelle ça un graphe d'intervalle. Alors le jeune mathématicien, qui est évidemment spécialiste de théorie des graphes, dit, voyons, ça n'est absolument pas possible, ça n'est pas un graphe d'intervalle, parce qu'un graphe d'intervalle, ça doit avoir des propriétés assez particulières qu'on peut assez bien imaginer. Je le dessine un peu à la va-vite. Si A et B étaient présents pendant une période donnée, B et C, alors B et C, ça peut être comme ça ou comme ça, mais enfin, bon, B et C étaient présentes en même temps à une période donnée, on peut examiner les deux, et si C et D, alors attendez, il faudrait que je regarde, par exemple, ABGH, vous voyez le quadrilatère ABGH, et bien ça, c'est, on peut assez très facilement comme ça, A et B étaient en même temps, B et H avaient une période commune, B et H, H et G aussi, et G et A aussi. Eh bien, ça n'est pas possible. Dans cet ordre-là, ce n'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, B et G auraient eu une période commune, ou A et H, vous voyez. Donc, on ne peut pas avoir comme ça, on ne peut pas avoir de quadrilatère comme ABGH sans arête intérieure. Sans arête intérieure, voilà, ABGH. Il faut qu'il y ait au moins, ou bien BG, ou bien AH, ou peut-être même les deux. Voilà. Donc ce quadrilatère est fautif. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a un agenda qui a triché, quoi. Voilà. Ça n'est pas un graphe d'intervalle, c'est ça qu'il nous dit. Mais alors, ici, on voit aussi un triangle inscrit dans un hexagone. Et ben, ça, c'est pas possible non plus dans un graphe d'intervalle. Pas plus que ce quadrilatère aussi, qui est fautif aussi, ABHC, parce que si, il aurait dû avoir AH aussi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments fautifs dans ce... cette figure, et en fait à chaque fois c'est A qui A est commun à toutes les figures fautives, voilà. A est commun, voilà. Donc c'est notre fameuse Anne la coupable. Enfin, ce qui est intéressant, c'est l'idée, si vous voulez, c'est l'idée en elle-même, l'idée d'une énigme policière qui serait résoluble que par un mathématicien, voilà. Évidemment, il fallait que ce fût écrit par un spécialiste de théorie des graphes. bien sûr. Un autre, alors pas un spécialiste de théorie des graphes, mais enfin, un autre mathématicien à l'Oulipo, qui est un monsieur très discret, Pierre Rosenstiel, qui est vivant, parce que j'ai cité peut-être beaucoup de morts. Non, non, j'ai dit Jacques Jouet, j'ai dit Frédéric Forté, j'ai dit non, non, il n'y avait pas que des morts. Pardon ? Donc, le poète Jacques Jouet de l'Oulipo a eu, lui, l'idée de... Il a inventé le poème de métro. Jacques Jouet a inventé le poème de métro. Jacques Jouet sillonne la France, l'Europe, le monde entier. Et à chaque fois, il se trouve dans des métros. Il lui dit, comme c'est un poète, pas seulement, mais c'est un poète, il a lui dit d'écrire des poèmes lors de chacun de ses voyages en métro, lesquels sont fort nombreux. Et donc, il a inventé un protocole qui consiste à penser le poème dans sa tête pendant que la rame roule, avec interdiction d'écrire, on n'en fait que composer le poème, et dès que la rame s'arrête, pendant les 20 secondes disons, d'ouverture et de fermeture des portes, on doit le transcrire sur le papier. C'est un protocole très rigoureux. Voilà. Quand on change de ligne de métro, eh bien on change de strophe dans le poème, c'est tout. Et ce poète, jusqu'au boutiste, un peu comme à la façon, je disais, de Georges Perec, s'est dit, est-il possible de parcourir intégralement le métro parisien dans les périodes ouvrables, disons entre 5h du matin et minuit. Voilà. Donc il s'est adressé au mathématicien Pierre Rosenstiel qui a essayé de minimiser, bon, pas une seule solution bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire un graphe hamiltonien, enfin vous voyez, l'idéal ça serait de ne passer une fois une seule par chaque station, mais évidemment voilà à peu près la forme du métro, des lignes du métro parisien, toutes les extrémités de lignes, déjà on est obligé d'y aller une fois puis de revenir en passant par les mêmes stations, c'est une évidence. Enfin bref, il lui propose ce schéma-là qu'il invente, qui permet de démarrer, je ne sais plus où, ici par exemple, ici, et de parcourir intégralement en revenant au même endroit, en plus. Voilà. Voilà. Et il lui annonce un chiffre de 16 heures, à peu près, 16 heures, et c'était possible, enfin 16 heures, c'est possible de faire parcourir le métro en 16 heures. Il y a les mêmes difficultés que quand Julio Cortázar et sa dernière compagne, Carole Dunlop, ont pris l'autoroute du Sud en s'arrêtant dormir à chaque aire de repos. Après, on a les problèmes de tickets, parce que le ticket de métro, il n'est pas valable 16 heures, et le ticket d'autoroute, de péage autoroutier, n'est pas valable si vous restez 2 mois à faire Paris-Marseille. Et quand vous arrivez au péage, c'est ce qu'ils ont fait. Je suggère la lecture de leur très très beau compte rendu qui s'appelle Les astronautes de la cosmoroute. Ouais. Donc il a évalué à 16 heures et finalement, Jacques Jouet l'a fait, il a publié l'intégralité. Et il a tenu ça en peut-être même 14 heures. Voilà. 14 heures. Voilà. C'est pour montrer, Jacques Jouet n'est pas du tout matheux, pour un sou, ni de formation, ni d'esprit. Mais en revanche, c'est lui qui a eu cette idée. Il s'adresse à un mathématicien qui l'optimise et qui lui permet de mener à bout ce qu'il a appelé sa frise du métro parisien. Et puis plus tard, ces poèmes de métro qui sont publiés chez POL, tous les poèmes de métro de Jacques Jouet, enfin tous ceux qu'il a voulu publier, hein, qui sont aussi du métro de Moscou, du métro plus récemment de Medellín, en Colombie, qui a la particularité d'avoir des rames suspendues, parce que Medellín est entre deux collines, donc pour aller au haut des collines, il faut prendre du métro, des œufs, quoi, on dirait. Ça, c'est un petit peu ambitieux en termes de temps. Hein, en termes de temps, je voulais évoquer comment la vie mode d'emploi devait, je pourrais le dire juste en quelques phrases, la vie mode d'emploi, mais je peux passer une heure sur la vie mode d'emploi, La vie mode d'emploi, le grand roman de Pérec, il faut bien que j'évoque la figure de Pérec, qui lui aussi n'est pas mathématicien de formation, mais qui a un esprit très 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 rigoureux. Il était bibliothécaire, une bibliothèque médicale. Comment dire en 1959, je ne sais pas où je dois commencer. Il y a une conjecture qui est due à Euler, l'immense mathématicien suisse. Et Euler avait essayé de mettre, on appelle ça le problème des 36 officiers. Il y a 36 officiers, ils ont 6 grades différents, ils proviennent de 6 villes, 6 régiments, enfin 6 villes différentes. Il y a les 6 mêmes grades pour chacune des 6 villes. Et Euler se dit, j'ai envie de disposer ces 36 officiers dans un carré de 6 sur 6, de telle sorte que dans chaque colonne et dans chaque ligne, il y ait les 6 régiments et les 6 villes, si vous voulez, 6 garnisons et les 6 grades. Et il n'y arrive pas. Et Euler, et Leonard Euler, est un immense mathématicien. Enfin, un mathématicien qui n'arrive pas à montrer quelque chose, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il n'y est pas arrivé. Mais bon. Il finit par émettre la conjecture que ça n'est pas possible. Alors, si vous voulez, là, moi, je vous le montre quand même en 5 sur 5 pour vous montrer que c'est très facile dans 5 sur 5 et que c'est même très facile en 2017 sur 2017. Si on avait 2017 fois 2017 officiers provenant de 2017 villes différentes et 2017 grades, ça serait très facile, vous voyez. Alors, bon, j'ai mélangé. Là, il y a l'abscisse et l'ordonnée. En abscisse, je mets le grade et en ordonnée, la ville, si vous voulez, peu importe. Mais là, je range les 25 paires possibles, petit x, petit y, où x est un entier entre 1 et 5 et y est un entier entre 1 et 5. Vous avez les 25, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de doublon. Hein. Il y a 1, 2, 2, enfin, il y a toutes les 25 possibilités, 25 couples sont présents ici. Et maintenant, regardez dans chaque colonne, là, si vous regardez l'abscisse, vous avez à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5. Si vous regardez l'ordonnée, il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5 dans chaque colonne. Et dans chaque ligne, en abscisse, il y a 1, 2, 3, 4, 5. En ordonnée, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ça, c'est très facile à faire. Regardez, on commence par mettre 1, et puis on incrémente. 1, 2, 3, 4, 5, et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je décale l'abscisse. Au lieu de là, ça démarre 1, ben, je démarre 2. 2, 3, 4, 5, 1. Et là, évidemment, si je dis j'incrémente, je vais mettre 2-2. Mais le 2-2, il est déjà pris. Donc, ça, c'est interdit. Donc, la seule petite astuce, quand c'est impair ici, hein, de 1 à 5, c'est impair. La seule astuce, c'est que là, quand on a incrémenté de 1 ici, là, on incrémente de 2. Au lieu de démarrer de 2, on va démarrer à 3. 3, 4, 5, 1, 2. Et là encore, on incrémente de 2. Hein, voyez, 5, 1, 2, 3, 4. Après 5, il vient 1, puis 2. Et puis 2, 3, puis 4, voilà. Voilà. Et ça, on le fait sur n'importe quel carré impair. Et ça, Euler l'avait trouvé tout de suite, évidemment. Il l'avait aussi trouvé pour les multiples de 4. Si le carré est un multiple de 4, il l'avait trouvé. Et il lui manquait les multiples de 4 plus 2, c'est-à-dire les nombres de type 2, 4, 2, 6, 10. 6, c'est son fameux problème des 36 officiers, hein. 2, 6, 10, 14, 18, etc. Bon, comme il n'était pas arrivé pour 6, pour 2, c'est très facile de montrer que ça n'est pas possible, eh ben, il avait émis la conjecture que pour tous les carrés eulériens d'ordre 4n plus 2, eh bien, il n'y avait pas, ça, il n'existait pas un carré eulérien, de carré eulérien d'ordre 4n plus 2. Voilà. Et tout le monde s'est accroché à essayer de le démontrer. En 1900, on arrive effectivement à démontrer qu'il n'existe pas de carré eulérien d'ordre 6. Et à la surprise générale, en 1959, eh ben, il y a 4 mathématiciens qui exhibent ce carré-là. Alors 10, ça fait partie des impossibles selon Euler. Eh bien si, c'était possible. Euler s'était trompé. En fait, les seules exceptions, c'est 2 et 6. Très très étonnant. Et là, vous voyez, alors là j'ai mis une lettre et un chiffre, et là, mais il a fallu des jours entiers de moulinage informatique pour arriver à exhiber. Et une fois que c'est exhibé, n'importe quel petit enfant peut constater que dans chaque ligne et dans chaque colonne, il y a A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et enfin, dans chaque ligne et dans chaque colonne, on trouve ce que j'ai dit. Et enfin, il faut qu'il y ait les 100 couples possibles réunis dans le carré, parce qu'il faut éviter les doublons, etc. Il faut qu'il y ait les 100 couples possibles, mais donc c'est une vérification totalement élémentaire. Mais il a fallu quelques siècles, 250 ans, pour arriver à la conjecture, elle date de 1772, quelque chose comme ça. Hein. Et donc il a fallu deux siècles pour arriver à exhiber ce carré. Et ce carré, il tombe dans l'oreille, sous l'œil de Georges Perec. Et ce Perec, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, c'est un objet qui m'interpelle. Qu'est-ce que je vais en faire? Et il dit, je vais en faire un immeuble. Je vais en faire un immeuble. Il y aura 10 étages verticalement. Il y aura 10 appartements par étage. Et je vais écrire la vie de cet immeuble. Chaque chapitre, ça sera la vie de la cellule correspondante. Cellule correspondante, et puis il y aura des interférences entre les différents personnages. Enfin, bon, voilà. Et il a cette idée-là. Tout ça pour dire que la vie mode d'emploi doit se lire comme un roman, mais la vie mode d'emploi ne doit son existence qu'au carré gréco-latin d'ordre 10 qui est écrit ici, ou eulérien, si vous voulez, carré eulérien d'ordre 10. Voilà. Après, évidemment, Perec est quelqu'un qui n'aime pas les choses trop simples, donc il se dit, est-ce que je vais commencer par chapitre 1, chapitre 1 ici, chapitre 2, non, ça serait trop bête. Donc il imagine un ordre de chapitre plus intéressant, et il appelle ça la polygraphie du cavalier, et en fait, c'est un jeu assez habituel sur un échiquier d'essayer de déplacer un cavalier pour qu'il parcourt les 64 cases, passant une fois une seule par chaque case. C'est un problème très classique, il y a des milliers de solutions. Alors, simplement, Perec étend ça à un échiquier 10-10, et il trouve cette solution. Vous voyez, c'est un cavalier qui va du chapitre... Là, c'est le 1, c'est donc le premier chapitre qui concerne exactement cet endroit. Chapitre 2, chapitre 3, et vous pouvez vérifier en ouvrant le livre que si vous êtes au chapitre 54, vous êtes dans les combles. Vous voyez, c'est suivi à la lettre. Perec est très, très rigoureux. Bon, on pourrait parler de tas d'autres choses. Je vais m'arrêter là sur la sextine, la terrine, les nombres de Queneau, les suites queneauiennes. Bon. Oui, voilà. Il y a un moment, il faut s'arrêter. J'avais dit la demi. Voilà. Je vais donc m'arrêter là. L'algèbre a été illustrée par Jacques Roubaud, que je dise au moins le nom de l'immense Jacques Roubaud, dans La princesse Opie ou Le conte du Labrador, qui est un livre extrêmement savant. Je m'adresse aux spécialistes des mathématiques. C'est un livre un peu à la Sam Lloyd, avec des énigmes qui sont posées au lecteur et des énigmes parfois fort difficiles. Il a fallu... Il y a même une énigme dont il n'y a pas du tout de solution. Les solutions ne sont indiquées nulle part. C'est pas du tout un livre pour enfants. Et il a fallu que l'éditeur de cette réédition, qui s'appelle Absalon, l'éditeur, se penche sur une partie cryptée, en langage cryptographique, mais le langage du chien supérieur, pour qu'il décrypte, c'est l'éditeur qui a décrypté la partie, les deux petits passages qui sont cryptés, que personne n'avait jamais réussi à déchiffrer. Y compris les mathématiciens et collègues de Jacques Roubaud à l'université de Nanterre. Personne n'avait jamais réussi jusqu'à ce que dans les années 2000, il y a une dizaine d'années, l'éditeur Absalon trouve tout seul le langage supérieur, bon, la partie cryptée. Voilà, je m'arrête là. Bon, j'ai bien d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a déjà un peu fait... Bon, là, c'était pour montrer qu'on pouvait aussi illustrer de l'algèbre, mais bon, écoutez, on va s'arrêter. J'ai dit qu'on s'arrêterait. Et c'est là, je voudrais qu'on passe à une partie un peu plus... Oh là là, où est-ce que c'est tout ça? Attendez. Mathématiques, parce que si c'est comme ça, je ne peux pas du tout... Ah, voilà. Non, je ne suis pas déconnecté, c'est moi qui... pour retrouver le fichier parce que sinon je peux pas le lire. Voilà. Allez, on joue pendant le temps que vous voulez, mais bon, on joue, je l'ai annoncé tout à l'heure, à des jeux oulipiens et à commencer par les Chicago, qui sont une invention de Paul Fournel. Et le principe est suivant, aussi notre premier Chicago, il faut trouver une ville, c'est écrit. Et c'est une espèce de charade, mais au lieu que les syllabes, que le mot soit décomposé en syllabes, et que les syllabes soient données à deviner par leur aspect, par une définition, eh bien là, c'est une espèce de dérive sémantique qui doit vous conduire à la syllabe. Donc là, vous voyez, j'ai une ville... En deux syllabes, admettons, deux syllabes, et la ville, elle doit figurer ici, hein. Ici, en dessous de Zaliatène, de Taliatène et en dessous de Marsouin. Si vous accolez les deux syllabes, vous aurez le nom de la ville. Alors, autrement dit, la première syllabe est un nom de pâte, coquillette, spaghetti, Taliatène. La deuxième syllabe est un animal. De l'ordre des cétacés, dauphins, baleines, marsouins. Et quand vous accolez les deux syllabes, vous obtenez... Félicitations, mais c'est pas si facile, j'ai mis celle-là parce qu'elle est drôle, mais c'est pas si facile. Nouille orque, voilà, nouille orque. Ouais. Voilà. Alors maintenant vous avez compris les Chicago, on va les faire très vite. Nul boulgour, néant couscous, zéro patate, nada polenta. Qu'est-ce qui va ici? Oui, alors dites le plus fort. Paris, bravo, au fond à droite, oui, Paris. L'os en terrine, l'os en ragoût, l'os en cocotte, l'os en daube, comment vous aimez-vous l'os? L'os en gelée, oui, bravo. Alors là, il y a peut-être un peu plus de combinatoire ici. Valet 10, roi dame, as valet, 10 roi. Là, ça ne tombe pas forcément immédiatement, parce qu'il faut faire la bonne combinaison, et il y en a... Damas, deux réponses simultanées. Damas, très bien. Celle-ci, suitcase mom, big box brother, vanity case sister, purse grandma. Oh bah, dis donc. Alors là, il y en a qui marquent des points. Hein. Bagdad. Corse-cache, mon Dieu, esprit ce monde, Seigneur, pensez à J, maître. Nudité s'exhibe, ma foi. Là, c'est plus dur. Hein. Bon, il y a corps, esprit, pensée, nudité. Qu'est-ce qui est un peu dans cette logique-là? Se cache, se montre, agit, s'exhibe. Oh là là, et pas facile, hein. Bravo, Dominique. Âme se taire, dame. Pas facile, hein. Temps achète, morpion belin, puce Herman, moustique Erol. Vous pouvez réfléchir à voix haute. Ce sont... Temps, morpion, puce, moustique dans cette famille-là. Non. Mouche. Ce sont quand même des... Oui, des... Oui, tiques, peut-être. Peut-être pas. Et puis, c'est un éditeur, après, des éditeurs spécialisés. Des éditeurs que vous... Les éditeurs scolaires, on va dire. Bordas, oui, alors ça, on en est à Tic Bordas, mais ça ne marche pas très bien. Tic Bordas, allez, c'est ni Tic ni Bordas. Le temps, il est déjà écrit, donc c'est pas temps. Ah, Nathan, pardon, Nathan. Ah oui, je croyais temps. Nathan, ah oui, je n'ai pas mis Nathan. Nathan, ça n'est pas Nathan, oui. Comment? Attier, vous proposez. Attier, ça ferait quoi le... Comment? Ah, je vois que la vie est difficile. Hein, c'est plus difficile que ce que je pensais. La puce et le... Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui va avec la puce? Comment? Et alors? Ah bon? Ah bah, vous n'êtes pas bien convaincu alors, hein? Ah oui, oui. Ah ben oui. Ah ben je suis. Oh, dis donc, je suis déçu, c'est celui seul qui vous a posé problème. C'est le seul. Poitiers, ben oui, Poitiers, oui. Bon, allez, ça n'est pas... Alors ça, c'était un jeu oulipien, inventé par l'Oulipo. Ça, c'est... On ne dit pas, mais ça, c'est un simple jeu homophonique qui ne doit pas sa naissance à l'Oulipo. Ça se trouve un peu partout. Vous savez, on ne dit pas, j'ai un ami qui n'est plus tout jeune, mais j'ai un potager. Bon, juste sur le jeu de mots. Bon. Alors, maintenant, à vous de trouver. On ne dit pas, Hélène se perdit. Donc, il faut chercher. Et Hélène Ségara. On dit Hélène Ségara. Voilà. Alors, je peux le dire à l'endroit comme à l'envers. Enfin, vous voyez, ou bien je donne la phrase. Enfin, il faut trouver le... Bon. Par exemple, si je vous lis, là, c'est la manière ramassée. On ne dit pas un conquistador. C'est à vous de... Ouais, voilà. Alors, après, vous me le transformez par synonymie. Vous le dites... un conquistador, il a trouvé aussi, oui. Mais du coup, on dit... un imbécile narcissique, enfin, vous le transformez pour que ce soit pas, voilà. De la même manière, on ne dit pas le petit pousset. On ne dit pas le petit pousset. C'est, vous voyez, c'est toujours le... Ah, le grand Freinet. Ah, oui, oui, oui. Je me souviens que, oui, oui, il y a eu Sophie Desmarais, Pierre Freinet, Jacques Seller, et il y en a, je crois qu'il y en a encore un quatrième nom de... Mais je crois que vraiment Jacques Seller, le comédien Jacques Seller, a pris son nom en hommage à Pierre Freinet. Je crois, enfin, j'ai lu ça. Mais là, il ne s'agit pas de dire le contraire, il s'agit de dire la même chose. Donc le petit pousset, il faut le dire autrement. Alors vous le pensez d'abord homophoniquement, quand on entend, ne le regardez plus, le petit pousset, qu'est-ce qu'on entend, et après vous le transformez en donnant un synonyme, une autre... Comment ? Voilà, exactement. Mais félicitations. Oui, 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 le gosse était constipé, mais bravo, bravo, c'était impeccable, impeccable, le petit pousset, ben oui, mmh. Oui, oui, le, oui, 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 alors je reconnais que, le garçonnet grandissait, quoi. Prenait de l'âge, c'est ça? Oui. Oui, le petit pou. Oui, c'est ça. Il ouais, a dû savoir. Oui, oui, d'accord. D'accord. Eh bien, ça marche. Il n'y a pas... Il y a plusieurs solutions, je suis d'accord. Le petit pou, c'est. Oui, oui. D'accord. Le petit moustique est intelligent. Proposition de Dominique qui est tout à fait... qui est validée. On ne dit pas la camisole. Et bravo! Voyez, voyez, oui, oui, la drogue en solitaire. On ne dit pas, alors maintenant, vous voyez, on peut le faire à toute allure. On ne dit pas le patois ni moi. On dit. Oui, si vous voulez. Oui. Oui. Bon. Patois ni moi? Eux! Enfin bon. On ne dit pas entrer dans l'arène. Bon, oui, oui. Mais je vous le dis. Voilà. On peut faire encore quelques devinettes littéraires pour passer à un autre jeu qui date, à mon avis, du 18e siècle, où on aimait beaucoup les jeux de lettres et les jeux de l'esprit. Ça me fait penser au Marquis de Bièvre qui s'est illustré au cours de Louis XV et Louis XVI. Et je crois, mais je n'ai pas vu le film, je crois qu'il est présent dans Ridicule. Voilà. Mais le Marquis de Bièvre est l'inventeur du calembour contemporain. Calembour au sens qu'ont après décliné avec verve Alphonse Allais, enfin je peux dire n'importe qui, même Victor Hugo. Mais au départ, il y a quand même le Marquis de Bièvre. Et j'ai au moins j'ai lu les œuvres du Marquis de Bièvre qui m'ont beaucoup marqué. Alors évidemment, parfois, ça peut paraître un peu anodin quand il parle des collègues de l'abbé l'abbé, vous voyez, c'est l'abbé qui, puis il y a l'abbé Cassine, vous voyez, enfin bon, vous voyez, tous les abbés ont des noms comme ça. Bon, ça peut paraître très simple, mais il y a des choses beaucoup plus sophistiquées. Je veux pour preuve le prince de Condé qui s'adresse à lui en lui disant, parce que c'était le grand jeu à la mode, Marquis, je vous demande un jeu de mots sur mon nom. Et le marquis réfléchit, il lui dit, prince de Condé. prince, votre nom porte en lui-même les jeux de l'amour et du hasard. Alors, à la santé de Martin Biem. En descendant le grand escalier de Versailles, Louis XV lui demande à son tour, « Ah, Marquis, vous voilà, eh bien, à votre tour, ou plutôt à mon tour, faites-moi un jeu de mots sur mon nom. » Et pris un peu au dépourvu, le marquis réfléchit comme ça, puis lui dit, « Messire, je ne peux pas, vous n'êtes pas un sujet. » Donc, même le sens de la polysémie, le sens, enfin bon, très habile, et très oulipien au sens, on ne dit pas, comme on l'a fait tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, une manière de décortiquer, de désassembler le langage et de le réassembler un peu différemment. C'est pas loin des puzzles, peut-être aussi, hein. Des réassemblages, de passer d'un rectangle à un carré, par du découpage. Bon, alors... Du repos des humains, alors c'est de Boileau, vous voyez, ce sont des alexandrins rimés, un quatrain. Du repos des humains, implacable ennemi, j'ai rendu mille amants envieux de mon sort, je me repais de sang et je trouve ma vie dans les bras de celui qui recherche ma mort. Qui suis-je ? Je me repais de sang, c'est une grosse indication. Et je trouve ma vie dans les bras de celui qui recherche ma mort. Mais il faut que vous fassiez un petit peu à voix haute. Hein. Oui, le moustique, si vous voulez. Alors, après, comme c'est du repos des humains, du repos des humains, comment ? J'ai rendu mille avements envieux de mon sort, le moustique, ça va un peu moins bien. C'était la puce. Enfin, c'est dans cette famille-là. Je me demande même si Boileau ne pensait pas un animal plus sournois. Bon, enfin, officiellement, c'est la puce. Bon. Tout paraît renversé en octosyllabe. Tout paraît renversé chez moi. Le laquais précède le maître. Le manant passe avant le roi. Le simple clerc avant le prêtre. Le printemps vient après l'été. Noël avant la Trinité. C'en est assez pour me connaître. Voilà. Alors, ceux qui sont habitués à penser, évidemment, on joue beaucoup là-dessus, quand on vous dit le laquais précède le maître, vous pensez à un laquais, un serviteur qui serait devant le maître, etc. Mais en fait, un laquais, c'est signifiant, signifié, si vous voulez. Il y a le sens du mot laquais, puis il y a le mot lui-même, laquais. Et le mot lui-même, laquais. Et plusieurs devinettes jouent un petit peu sur cette opposition entre le mot, et la signification du mot et le mot lui-même. Eh bien, le laquais précède le maître dans un dictionnaire, vous avez tout à fait raison, parce que le L est avant le L est avant le M. De même, le M est avant le R, et le printemps vient après l'été, parce que la lettre P est postérieure à la lettre E dans un dictionnaire, dans l'alphabet. Quoi. C'en est assez pour me connaître, vous voyez, ce sont des octosyllabes. Alors, une autre devinette basée sur autre chose. Devine-moi, car j'en suis digne, je me cache lorsque je sers, je suis très souvent dans les vers et l'on me trouve à chaque ligne. Qui suis-je ? Comment ? Bravo, bravo, bravo. Parce qu'évidemment, comme c'est fait, c'est présenté en vers ici, on va penser à des choses qu'on trouve dans toutes les lignes et tous les vers d'un poème, et donc on va penser à la ponctuation, à l'espace entre les mots, etc. Mais l'habile polysémique, spécialiste de la polysémie que voici, se dit que les vers et les lignes, ça se trouve ailleurs que dans la poésie. Les vers et les lignes, ça se trouve dans la pêche. Ben oui, oui, oui. L'appât, oui, pourquoi pas l'appât, bien sûr. Je me cache lorsque je sers. Non, ben oui, c'est l'hameçon qui se cache. Hein, l'hameçon se cache plutôt. Non, c'est l'hameçon. Voilà. Donc on joue en plein là sur la polysémie, la multiplicité des sens des mots, de certains mots. Autre type, les femmes et les hommes le possèdent en double et en plein milieu. Bravo, instantanément. Le M, là encore, il ne s'agit pas des femmes et des hommes, mais des mots. femme au pluriel et homme au pluriel, dont les double M, vous voyez, est présent, c'est présent à la fois dans le mot femme et dans le mot homme et au milieu. Là, c'est autre chose. C'est vraiment le genre de devinette. Ça s'appelle une sirandane à Madagascar. Et apparemment, les ancêtres posent cette question, ce genre de question de devinette à leurs petits-enfants. Celui qui le fait le vend, celui qui l'achète ne s'en sert pas, celui qui s'en sert ne sait pas qu'il s'en sert. Celui qui le fait le vend... Non, oubliez cette première information qui n'en est pas une. En revanche, les deux autres en sont des informations. Celui qui l'achète ne s'en sert pas. Celui qui s'en sert ne sait pas qu'il s'en sert. Voilà, c'est les propositions 2 et 3 qui donnent des informations. Comment ? Le langage, on ne l'achète pas quand même. Allez, c'est un objet, c'est un objet. Un objet qui s'achète. Oh ben dites donc, il est fort, hein. Il est quand même fort. Hein. Parce que c'est un objet auquel on ne pense pas forcément. Hein. Celui qui l'achète ne s'en sert pas. Alors c'est vrai que maintenant je crois qu'on peut acheter chez Rock et Claire, il me semble, qu'on peut acheter son propre cercueil en avance, il me semble. Hein. Je ne sais pas très bien. C'est le concept Leclerc. Mais enfin, a priori, quand on achète un cercueil, ce n'est pas pour soi-même. Et quand on l'utilise, eh bien on ne sait pas qu'on l'utilise. Bravo d'y avoir pensé, ce n'est pas du tout évident de penser à ce genre de choses. Qu'est-ce qui commence par un E, finit par un E et contient une lettre ? Une enveloppe. C'est encore là. Oui, bravo, bravo. Là, ce n'est pas vraiment une devinette, c'est plus pour le plaisir du jeu de mots. Deux chèvres, Babi et Baba, sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau, que se passe-t-il ? Comment ? Babybel. Ben oui, mais et Baba ? Et Baba ? Baba cool et Babybel, ben oui, bien sûr. Et on peut... Allez, une dernière forme, parce qu'elle est très, très oulipienne, elle est inventée par Georges Perec. Il s'agit d'un poème que j'ai écrit ici, mais en me chaussant les pattes de Perec. C'est un poème dédié à un objet connu de tout le monde. Ce poème parle de l'objet en question, et on s'arrêtera là-dessus. Ce poème parle de l'objet. Je le fais en général à des personnes. Je le fais pour des poèmes dédiés à une personne. Mais là, c'est un objet. Ce poème parle de l'objet et ce poème n'est écrit qu'avec les lettres qui constituent le nom de l'objet, la dénomination, si vous voulez, intégrale de l'objet, qui est un objet que vous connaissez tous. Alors, il faut le lire d'abord. La folie férifère louée à la lettre, on va lire la première partie. Tare ou folie, fête ou réalité, fleur futile ou fatuité fatale, il fallait être fou, fou allié. Tout attitré et outillé, le ferrailleur fertile et farfelu la fit, fruit, air et fer, fille tout à lui. Filet troué, tôle fileté, elle fuit effilée, frêle et forte, altière et fière, tout affrété, rituel, elle attire la foule, et au fait, alerte, foutu trouille. Alors, quelles sont les lettres utilisées, les voyelles ? Quelles sont les voyelles utilisées ? Voilà, vous avez tout dit, on a droit à toutes les voyelles. Quelles sont les consonnes utilisées ? F, R, T, L. Bon, ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. C'est un poème écrit avec quatre consonnes. Voilà, un poème, y compris la suite, qui est un peu plus lyrique, si vous voulez. Il n'y a que quatre consonnes. Ce sont les quatre consonnes du nom de la chose. Alors, cette chose, quelle est-elle ? Le ferrailleur fertile et farfelu la fille, fruit air et fer. Une indication. Tout affrété et rituel, elle attire la foule. Et au fait, alerte, foutu trouille. Voilà à peu près ce qui donne les indications. C'est un objet donc en fer. La guillotine, peut-être, mais alors... Et au fait, au sens, au sommet, hein, au sommet, alerte, foutu trouille. Alors la guillotine, c'est vrai qu'elle peut donner à peur, mais c'est pas au fait, la guillotine. Enfin bon, pour des questions de lettres, ça va pas tellement la guillotine. Hein, c'est une dénomination dont les lettres, les consonnes sont F, T, R, L. La tour Eiffel. Vous croyez ? Bravo. Félicitations. Ben oui, oui, fruit de l'air et du fer, faite par un ferrailleur fertile et farfelu, altière et fière, tout affrété rituel, elle attire la foule et, au fait, alerte, foutue trouille. Elle flétrit, tire-lui l'oreille ou effleure-lui l'orteil, alors elle fout rire, elle a l'air falote, frôle-la, farfoule-la, et elle râlera, elle furettera, elle frétillera, l'œil froufroute et l'aile folâtre. Elle rouille, frotte-la, il faut la faire reluire, elle rutilera, et au litre, oui, oui, au litre la filoute, elle foutra le fiel, où l'alouette tire lire, et où file la tourterelle. Voilà. Et c'est là-dessus que nous nous arrêterons. Voilà, j'ai un peu dépassé. Mais merci à vous d'être venus fort nombreux, parce que c'était quand même un sujet assez pointu. Merci à Dominique Monconduit, qui le premier a eu l'idée de m'inviter à Poitiers à la suite de la publication de la biographie de François Lionel, l'inventeur de l'Oulipo, livre que je vais présenter demain en librairie La Belle Aventure. La Belle Aventure, dans notre ville, enfin votre ville, dans cette ville. Et merci à l'Espace Mendès France, à Christine Guiton, à Dominique Gau, et alors je ne connais pas vos noms, mais j'ai eu l'occasion de visiter tout à l'heure, on arrive un petit peu en avance, de visiter l'exposition sur les puzzles justement, et le plan et l'espace, l'art du découpage et de l'assemblage, une exposition tout à fait réjouissante. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Alors maintenant, je reste ici, je ne sais pas s'il y a des questions, mais voilà.
Merci encore, c'était vraiment très agréable, très original. Voilà, on a travaillé, donc je ne sais pas s'il vous reste quelques neurones, quelques réflexions. Non, je pense que c'était très agréable, donc on va terminer comme ça, sagement, et puis j'espère que vous pourrez être présent demain à La Belle Aventure, donc c'est à 18h30, c'est ça ? Pour donc découvrir le magnifique ouvrage donc sur François Le Lyonnais, donc écrit par Olivier Salon.
Oh, c'est un livre très gros, mais je le dirais de très gros, il est un peu roboratif pour des spécialistes, mais pour Le Lyonnais est connu un peu du monde mathématique, bien connu en général du monde mathématique un peu ancien puisqu'il est mort en 84. Mais c'est surtout ce livre-là, enfin pour les non mathématiciens ou ceux qui connaissent pas du tout Le Lyonnais, qui n'ont pas du tout envie de s'intéresser à Le Lyonnais, il a quand même écrit un livre tout à fait hallucinant, somptueux, exceptionnel, inouï. Ça s'appelle La peinture Adora. Et s'il faut retenir d'une seule chose de Lyonnais, ce sera celle-là, La peinture Adora, que le même éditeur a édité simultanément et qui se trouve donc certainement à La Belle Aventure. Voilà, c'est un tout petit livre qui fait. Il est peut-être arrivé à en faire 30 pages parce qu'il écrit ça en caractère énorme. C'est un livre très 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 court, très court, mais d'une densité tout à fait exceptionnelle. C'est un livre qui ne parle que de peinture, de l'art de la peinture, mais dans le camp de concentration, d'extermination de Dora en Allemagne, où le Lyonnais a eu l'infortune d'être déporté, mais en est revenu vivant. Voilà, je ne dis plus rien, je réponds à des questions s'il y en a, et puis sinon...
Donc, effectivement, si le public voulait vous faire revenir et pour écouter l'histoire de Le Lyonnais, c'est vraiment passionnant. Donc, alors évidemment, on peut acheter le livre, mais la façon dont vous la racontez, c'est
oui, parce qu'il y avait du. Alors, c'est une bonne manière de le résumer. Il y a, c'est un personnage très très cérébral, concepteur de l'Oulipo. C'est un spécialiste. Connu dans le monde entier, spécialiste des échecs, connu dans le monde entier. Il est connu du monde des mathématiciens, mais il n'est pas du tout mathématicien. Il est connu dans le monde des échecs, des plus grands maîtres des échecs. J'ai une photo avec Karpov, Anatoly Karpov, avec Mikhail Tal, qui déjeune chez lui. Tout le monde vient chez lui. Il connaît les mathématiciens de Bourbaki, des plus, le foisonnement mathématique français des années qui commençait en 35, mais des années 50, il connaît tous ces grands, ces immenses noms, les gens les plus savants viennent déjeuner chez lui, mais pourtant lui a très peu de cartes de, enfin pas de cartes de visite, il y avait beaucoup de cartes de visite, mais il a très peu de titres officiels, si vous voulez. Il a une petite formation de licence en mathématiques, les échecs c'est en autodidacte, le piano c'est par sa mère, jusqu'à l'âge de 11 ans il fait du piano, la poésie il la lit, il rencontre Max Jacob, et pour les besoins de ses livres il rencontre Le Corbusier, un grand ami de Le Corbusier, enfin, bon, c'est un homme assez une envergure assez exceptionnelle. Et puis parallèlement, c'est vrai que j'ai évoqué sa vie sentimentale, qui n'est pas à envier, mais qui est tout à fait rocambolesque. Voilà, rocambolesque. Donc c'est vrai qu'il y en a pour Arte et pour TF1. C'est vrai que c'est une bonne manière de le résumer.
Bon, tout le monde reste. Voilà, on est prêt à vous écouter encore des heures, je crois. Voilà, on est sages. Voilà. Bon, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore visité l'exposition, je vous invite jusqu'au mois de juillet à découvrir l'exposition sur les Pulse. Voilà.